Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Je suis avec Franck Perrin sur le domaine de Savoie-Grand-Rovard. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes depuis cet automne le nouveau directeur de la station, du domaine. Oui. Et depuis 17 ans, vous étiez responsable du service nordique.
Tout à fait. J'étais en charge de l'exploitation du domaine nordique comme directeur d'exploitation. Domaine nordique et activité de pleine nature depuis 2018 comme directeur et responsable depuis 2003 de ces activités nordiques et estivales.
Alors, vos missions ont un petit peu changé, bien que vous ayez gardé votre poste de responsable du domaine nordique. Qu'est-ce qui change, là, de devenir directeur de ce domaine ?
Alors, oui, effectivement, j'ai assuré la continuité de mon service à l'ouverture, au mois de décembre. Et maintenant, j'ai un adjoint donc, qui commence à prendre le relais pour la gestion technique des activités nordiques. Ce qui change dans la direction générale, c'est qu'on manage non plus un service cantonné à une activité, mais là, on a tous les services, aussi bien alpins, hein, même si le domaine alpin n'a malheureusement pas encore pu ouvrir, mais tous les services techniques, ateliers, bâtiments, maintenance, caisse. Donc on a quand même une charge de travail plus globalisée et qui comprend tous les secteurs de notre activité.
Alors vous le disiez, c'est une année un peu particulière puisque l'Alpin n'a pas ouvert. Qu'est-ce qui se passe du coup avec tous ces salariés qui étaient embauchés avant ?
Alors, on a pu ouvrir le domaine nordique, donc on a quand même tous les salariés de l'activité nordique en poste avec les services caisses. Pour l'activité alpin, on a mis en place le chômage partiel, qui est au niveau national, hein, qui est pour toutes les activités qui sont fermées administrativement. Donc notre personnel alpin a embauché comme il devait le faire le 18 décembre. Ouais. Et actuellement, eh bien, ces salariés-là touchent une indemnité de chômage partiel.
Est-ce que vous avez pu rapatrier quelques-uns des pisteurs, secouristes de l'Alpin sur le Nordique pour augmenter la présence ?
Oui, c'est ce qu'on a fait. Alors, on l'a fait, on avait déjà nos services nordiques dimensionnés, mais comme on entretient nos domaines alpins, on espère encore pouvoir ouvrir à partir des vacances de février. Ça va se jouer très prochainement. Mais donc, on a du personnel alpin, dameurs, pisteurs notamment, et exploitants d'appareils de remontée mécanique, parce qu'on a fait tourner aussi nos tapis pour les écoles de ski depuis les vacances. Donc on a à peu près 5 personnes qui évoluent sur l'Alpin habituellement, qui sont en poste.
D'accord, mais justement j'allais y venir. En fait, la relation du coup du domaine avec les écoles de ski, les différents foyers du plateau, parce que les restaurants sont fermés. Ça se passe comment tout ça, les salles hors sac, la gestion de tous ces bâtiments qui d'habitude sont ouverts et qui actuellement fonctionnent comment ?
Alors, on n'a pas forcément en charge tous les bâtiments sur le plateau. Les salles hors sac sont fermées. Tous les lieux qui accueillent du public doivent être fermés. Alors, on a quand même pu ouvrir quelques salles, mais on a conventionné avec les écoles de ski, notamment à Saint-François-de-Sales ou à Crolles, avec le centre école du ski nordique du Revard, qui avait besoin pour l'activité scolaire uniquement. Donc, cette convention, elle est à destination d'une école de ski ou d'un centre école, et c'est à eux de gérer l'accès avec les autorisations scolaires et toute la partie respect des contraintes de nombre de personnes, de désinfection sanitaire autour. Mais globalement, tout le reste, là où on n'a pas moyen de contrôler les entrées, les venues, les allées, la désinfection, on les a tenues fermées. Après, les relations avec tous les acteurs socio-professionnels se fait en très bonne intelligence. Les écoles de ski arrivent à fonctionner, notamment avec l'activité nordique, plutôt bien. Je veux dire que pour des stations de moyenne montagne comme les nôtres, avec deux pôles d'activité alpin et nordique, on arrive encore à sauver les meubles.
Vous parliez tout à l'heure de l'entretien des installations. Donc les remontées mécaniques sont fermées. Il a fallu faire l'entretien quand même, bien que vous sachiez qu'elles n'ouvriraient pas jusqu'à une hypothétique ouverture.
Ah oui, on a fait tout l'entretien, hein. Tout l'entretien annuel a été réalisé. Donc, on est en mesure d'ouvrir nos équipements. On les fait tourner régulièrement, d'ailleurs, hein, pour être bien sûr que le jour où on peut appuyer sur le bouton on, on soit en capacité de les mettre en route. On entretient les pistes, on fait du damage, parce qu'il ne suffit pas de laisser tomber la neige. Il faut encore entretenir le manteau neigeux pour, au cas où, ouvrir au mois de février, ce qu'on souhaite. Et puis, les jardins d'enfants sont ouverts. Donc, Revard, comme Fécla, le domaine nordique, on l'a vu, il est entièrement préparé. Et donc, on a quand même une bonne partie de nos employés qui arrivent à travailler, et des sociopros aussi.
Et du coup, les foyers de ski de fond, les foyers de crawl, parce qu'il y a les locations aussi, eux peuvent fonctionner, peuvent tourner.
Oui, oui, complètement. C'est des commerces de location qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent. Donc, à Saint-François-de-Sales, il y a le bâtiment géré par la commune qui est ouvert avec sa location, avec la restauration aussi, hein, qui fait de la restauration emportée. L'école de ski fonctionne aussi à Saint-François-de-Sales avec tous ses services de cours. Au Revard, on a l'école de ski qui fonctionne autour d'un fil neige qui a eu l'autorisation d'ouvrir, donc qui fonctionne. On a ouvert nos tapis, donc on a conventionné avec l'école de ski d'Urvar pour leur permettre de donner des cours sur ces tapis. Donc on a des perchemans, on dame, et puis à la Fécla, l'école de ski a son tapis personnel qu'elle ouvre pour ses clients et on entretient les pistes. Donc après, voilà, on a mis en place toute la sécurisation, les pisteurs relèvent les jalons, les filets, on s'assure de la sécurité. Par contre, les domaines, la pratique de ski alpin ne peut pas se faire, effectivement, vu la fermeture des remontées. Mais on a beaucoup de gens qui viennent sur les fronts de neige en luge, des randonneurs. Donc on a une autre clientèle qui fréquente le site.
Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent le ski de randonnée, du coup ?
Alors oui, effectivement. Nous, on a alors beaucoup par rapport à d'autres sites, ça va être... pas forcément beaucoup, mais on n'avait pas cette clientèle ou à la marge. Au jour d'aujourd'hui, on a vu les locations proposent du ski de rando et des gens se mettent à la rando. On a beaucoup plus de randonneurs qu'une année classique avec nos remontées ouvertes.
Est-ce qu'il y a aussi des gens qui mettent les skis alpins sur le sac à dos, montent en raquette et puis réussissent quand même à se faire une petite descente ? Vous en voyez ?
Oui, on le voit, mais on voit ça beaucoup plus avec, les snows, en fait. Voilà. Ceux qui font du snow, qui effectivement montent avec la planche dans le dos, en raquette ou à pied, et qui redescendent avec la planche au pied.
Alors du coup, vous êtes le nouveau directeur, vous avez une deadline pour ça? Vous êtes embauché pendant combien de temps là? Vous le savez?
Oui, 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 je sais, parce que moi j'étais directeur d'exploitation, donc je suis un directeur technique. Hein, moi je me suis engagé à faire tourner nos équipements cet hiver, hein, bon an, mal an, là on espère vraiment pouvoir ouvrir l'Alpin. Et je me suis engagé jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que on va, enfin, nos élus souhaitent un rapprochement, sinon une fusion de la structure Savoie-Grand-Revard et de la structure Ayon-Margeria. Donc on a pour l'instant deux structures professionnelles qui sont différentes. Nous sommes en régie, Ayon-Margeria est en SEM. La volonté des élus, c'est de nous restructurer en une seule entité.
Vous avez un échéancier de ce possible rapprochement, de ce futur rapprochement?
Alors, pas précisément. Ça appartient aux élus, parce que ouais. Ça ne se fait pas comme ça, bien du sûr. Jour au lendemain. Et effectivement, il faut déjà que nos élus trouvent la bonne structure, la bonne forme juridique. Ensuite, on pense que ça pourrait se faire pour l'hiver prochain, donc l'hiver 2021-2022, peut-être, ou peut-être pour l'hiver d'après. Donc c'est pour ça que moi, mon rôle, je le conçois actuellement au sein de Savoie-Grand-Revard jusqu'au mois d'octobre. Bien entendu, selon l'évolution, fusion ou pas, on rediscutera. Je réintégrerai peut-être mes fonctions de directeur d'exploitation nordique, ouais. Où je garderai les fonctions élargies de directeur technique d'exploitation des domaines skiables de Savoie-Grand-Revard. Après, je ne voulais pas m'engager au-delà parce qu'il y a un organigramme qui devra s'écrire avec nos collègues d'Ayon-Margeria, bien entendu.
Grande discussion entre élus. Du coup, les élus ont changé eux aussi cette année, enfin l'année dernière, parce qu'on est en 2021, donc avec les élections municipales, il y a eu plein de nouveaux qui ont intégré en fait le Savoie-Grand-Revard. La présidente du syndicat mixte, c'est Madame Ferrari, qui est maire des déserts. Elle aussi, c'est une professionnelle de terrain. Ça se passe comment entre deux professionnels de terrain?
Bah écoutez, ça se passe très bien. Bon, elle est dans son rôle. Hein. Elle a quand même, elle est maire de la commune des déserts, qui est une des communes support de nos structures importantes d'ailleurs. Donc, une bonne partie du Revard est assise sur le territoire foncier des déserts. Elle est présidente du syndicat mixte. Donc, on a des relations, notamment de professionnelles assez rapprochées par rapport à nos structures, puisque nous, on gère le fonctionnement, elle, l'investissement. Après, c'est une actrice de terrain. Elle connaît très bien le milieu dans lequel elle évolue. Hein. Elle est mûcheur professionnelle, oui. Elle connaît son territoire. Et c'est vrai que c'est appréciable. Elle est à proximité. Elle habite oui. sur la commune. Nos bureaux sont sur la commune des déserts, à la FECLA. Effectivement, il y a une proximité qui est intéressante pour pouvoir échanger rapidement et concrètement. Oui. Voilà, donc ça, c'est pour le cas de la présidente. Après, les nouveaux élus qui composent le bureau, on a la chance aussi d'avoir beaucoup d'élus de terrain, en tout cas du territoire, comme Madame le maire de Saint-François-de-Sales, Madame le maire d'Arrite. On a Monsieur le maire du Moncel, effectivement, qui sont dans le bureau. Donc, les communes qui supportent les infrastructures, c'est très intéressant pour pouvoir échanger. Ils sont au plus près de leur population, au plus près des pratiquants. On les voit sur le terrain. Oui. On a des relations qui sont assez proches.
Alors justement, on parle d'infrastructure. Il y a ici, à la FECLA, un magnifique stade de biathlon. Il sert pour des compétitions l'été, le biathlon Summer Tour. Est-ce qu'il va servir un jour pour une Coupe du Monde de biathlon, par exemple? C'est dans les projets ou pas?
Direct, la Coupe du Monde. Ah bah oui, bon, la structure où est le stade a déjà été support des championnats de France de biathlon et de ski nordique. Dès sa réception, d'ailleurs, l'hiver 2015, enfin printemps 2015. Oui, l'été, bien entendu, il prend sa place dans les compétitions, le circuit national avec le biathlon Summer Tour. Et effectivement, il est possible, c'est une structure qui peut accueillir des compétitions dans un premier temps national, parce qu'on a déjà au niveau national, les cahiers des charges sont relativement serrés. Ouais. Il faut répondre quand même aux attentes des compétiteurs et des organisateurs, donc la FEDE notamment. Donc ça, on souhaite y prendre toute notre place. Après, au-delà, au niveau international, ça demande encore un petit peu de travail, hein, effectivement. L'infrastructure, alors routière, elle est sur place, ou les structures de transport avec les gares TGV, les aéroports. Mais il y a aussi l'hôtellerie, restauration, les capacités d'hébergement. Quand on vise l'international, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans la globalité. Mais je pense que Savoie-Grand-Revard peut avoir sa place. On a accueilli les championnats du monde de course d'orientation, qui était un très bel événement. Et puis d'autres événements, il y a déjà eu des Coupes du Monde d'ailleurs sur le plateau de Savoie-Grand-Var en ski nordique. Ouais. J'arrive jamais à intégrer, c'est 1987 ou 1988, il me semble c'est 88, avec une Coupe du Monde d'âme en ski de fond. Donc pourquoi pas, après honnêtement une Coupe du Monde de biathlon, j'ai envie de reprendre l'expression d'Alexis Boeuf qui m'est cher, faut pas rêver, mais c'est quand même le circuit mondial est déjà bien bordé par tout un tas de nations qui sont des nations phares de ce type d'événement, et on a vraiment la marche est haute. Donc restons à notre place nationale, pourquoi pas après sur des coupes d'Europe, hein, ça oui, peut s'envisager en ski nordique comme en biathlon ou sur d'autres événements, on a une autre carte à jouer.
Parce que vous accueillez régulièrement des équipes internationales qui viennent s'entraîner sur le plateau.
Oui, oui, tout à fait. Oui, bon, sur le stade de biathlon, notamment l'été, on a eu les Norvégiens, les groupes A, les groupes B. On a eu les Biélorusses, les Italiens, l'équipe de France qui vient régulièrement. Et, alors, la structure est bien née. Maintenant, il faut la faire évoluer. Pour le haut niveau, on doit avoir des pistes plus techniques. Ce qui nous manque un petit peu, au-delà même de l'aspect hébergement, c'est la technicité, en tout cas l'été, de notre parcours de ski à roulette, ouais, qui manque de relief et de technicité.
D'accord. Il serait peut-être pas assez long aussi ?
Non, c'est plus qu'une question de longueur, c'est vraiment une question de dénivelé de pente, ouais, de pourcentage de pente pour les bosses, d'enchaînement de difficultés qui font qu'on peut avoir des parcours à la hauteur des attentes de compétiteurs de très haut niveau. Et c'est vrai qu'on a un beau site d'entraînement pour tout ce qui est jeunes, des clubs, comités bien entendu, mais même pour la Fédé, hein, on a les groupes France qui viennent régulièrement. Mais pour une compétition majeure, une Coupe d'Europe, ou alors bien entendu encore plus pour les Coupes du Monde, il faut vraiment des circuits adaptés et très techniques.
On continue sur les infrastructures. L'année dernière, donc au printemps 2020, il y a des réunions qui se sont faites autour d'un potentiel parc animalier sur le Revard. Finalement, ce projet a été abandonné ?
Oui, on a été sollicité à Savoie-Grand-Revard par rapport à l'établissement de ce type de structure. On avait regardé les différentes potentialités sur les zones géographiques. On avait émis un avis d'un investisseur privé. Je crois qu'effectivement, le projet n'est peut-être pas forcément abandonné, mais en raison de la crise Covid, je pense qu'effectivement, l'investisseur a dû mettre un petit peu la flèche en attendant de voir comment les choses évoluent.
On change de sujet, on va arrêter de parler des infrastructures, même si Savoie-Grand-Revard est connu pour avoir un domaine d'environ 150 km de piste. Ça se passe comment la relation entre les trois portes, Crolles, Saint-François, La Fécla ?
Eh bien, ça se passe pour nous, en tout cas, qui gérons l'activité ski nordique de Savoie-Grand-Revard. Pour nous, le domaine, il est globalisé. C'est Savoie-Grand-Revard. C'est-à-dire qu'on a trois portes très différentes, effectivement, mais le maillage de pistes et l'intérêt du site, il est lié à cette différence, à ces trois portes-là. Et pour moi, elles sont indissociables. Moi, je suis arrivé en 1995. J'ai connu Savoie-Grand-Revard, on va dire, avec ces trois portes unies, c'est-à-dire un seul et unique domaine. Voilà, donc pour nous ça se passe bien. Effectivement, c'est trois portes très différentes. La Fécla, elle a une activité de ski alpin et une activité de ski de fond qui sont côte à côte, l'une à côté de l'autre, et avec un village, avec des commerces et qui drainent énormément de monde. C'est vrai parce que ces deux activités sont attirent beaucoup de monde. Après, on a deux autres portes, donc Crolles qui est la porte directe pour Aix-les-Bains, qui est un parking avec un foyer et une grenouillère d'accès, avec une porte qui donne sur les 150 km. Et donc là, on a aussi beaucoup de monde parce que Aix-les-Bains est relié directement. Après, Saint-François, qui est la porte nature, qui est du même type que celle de Crolles, avec un parking, un foyer et une grenouillère de départ, hein, quelques bâtiments. Effectivement, elle a plus une clientèle locale issue du massif des Bauges, donc du cœur des Bauges, et puis qui draine une clientèle qui vient d'Annecy, Rumilly, de ces zones un petit peu au Savoyard, et qui est très intéressante parce qu'elle est à la fois entre prairies et forêts, alors qu'on a un domaine très forestier à Crolles et essentiellement aussi forestier au départ de la Fécla. Donc, mais pour nous, elles sont indissociables et on essaye de... Quand on ouvre une porte, souvent, si on n'a pas les capacités d'ouvrir les deux autres, c'est un problème. Et dès qu'on le peut, on ouvre, on relie les trois portes.
On va parler des travaux qui ont commencé à l'automne pour la retenue collinaire. On est tous au courant qu'il y a eu des sabotages et des opposants. Ils en sont où les travaux ? Ils sont arrêtés quand ? Enfin, avant les chutes de neige, ça s'est arrêté à quel point ? On en est où ?
Alors, on en est exactement là où on souhaitait être, c'est-à-dire qu'on a décapé les terres végétales sur l'emprise de la retenue collinaire en elle-même et sur l'emprise des réseaux. C'était donc quelque chose qui était prévu de longue date. Pourquoi décaper la terre végétale avant l'arrivée de l'hiver ? C'est pour qu'au printemps, empêcher la nidification, entre autres, des oiseaux au sol et puis la reproduction aussi des insectes, notamment, sur des terres qui auraient été encore en pelouse. Donc à partir de là, on a fait le job. L'hiver s'installe et dès la fonte des neiges, les travaux vont reprendre selon le rétro-planning qui est affiché sur l'étude.
Et les opposants viennent toujours, malgré l'arrêt des travaux temporaires ?
Non, après, là, actuellement, effectivement, on n'a pas eu d'opposition marquée cet hiver à ce projet. On se doute qu'au redémarrage des travaux, le collectif d'associations qui s'oppose à ce projet pourrait éventuellement remener des actions. Hein. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de problème.
Et vous avez prévu combien de canons à neige autour de cette retenue ?
Alors, on a actuellement 4 enneigeurs et la retenue devrait permettre l'installation d'une trentaine d'enneigeurs. Donc, on arriverait à 34 enneigeurs une fois le projet global terminé.
Qui serait réparti où ça, alors ?
Alors, la répartition, elle se fait actuellement sur et autour du stade de biathlon. Alors, ce n'est pas uniquement prévu pour enneiger le stade de biathlon, puisque ces pistes-là comprennent le départ des pistes de ski de fond en direction de la forêt depuis la Fécla et le retour. La Fécla est à 1350, mais tout son départ est exposé relativement au sud, quasiment toutes les pistes départ-retour au sud, et on a beaucoup de difficultés à garder la neige. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a déjà 4 enneigeurs qui nous permettent de sécuriser. Donc ces 34 enneigeurs vont à la fois permettre le départ et retour de la station de la Fécla ski au pied, en misant qu'on ait de la neige naturelle sur la forêt. On a beaucoup travaillé sur l'état de nos pistes qui nous permettent de travailler avec nos machines avec beaucoup moins d'épaisseur de neige qu'il y a 15 ans en arrière, par exemple. Mmh. Et bien entendu, de sécuriser aussi le stade et puis une boucle. Si on imagine qu'il n'y a pas de neige du tout sur un début d'hiver, comme ça peut arriver, on serait en mesure d'enneiger entre 2 à 3,5 km de piste pour le grand public ou pour une compétition, pour l'entraînement de nos clubs, qui, je le rappelle, on a 700 licenciés, même un peu plus, il me semble, sur les 3 clubs du plateau.
Il n'y a pas une température minimale à avoir pour faire tourner ces canons à neige ?
Il faut que la température de l'air soit négative. Ça, c'est une première évidence. Après, la température minimale dépend de la température de l'eau. Actuellement, notre eau, elle est à 6 degrés. Quand elle arrive aux enneigeurs, via les pompes et les canalisations, elle prend un degré à peu près, même de l'eau à 7 degrés. On commence à fabriquer avec une température de moins 3,5. Alors, ça devient un peu technique. Moins 3,5 en température humide, c'est la température de l'air couplée au taux d'hygrométrie qui nous donne cette température. Mais ce n'est pas des calculs très savants. En gros, si on a 100% d'humidité, il y a moins 1 degré dans l'air, la température humide est à moins 1 degré. Si on a 50% d'humidité, la température de l'air à moins 1 nous donne un calcul à moins 2 degrés à peu près pour la température humide. Donc il nous faut actuellement, comme on a quand même une hygrométrie assez importante, la température de l'air située entre moins 3 et moins 3,5 pour commencer à fabriquer, avec une eau à 6 degrés. Dans le lac, on espère pouvoir descendre la température de l'eau à 3 degrés et on pourrait démarrer à moins 2 degrés en température de l'air. This is my freedom, this is my voice. My arms, this is my trumpet.
il y a de la neige, ça faisait longtemps. Les années enneigées deviennent l'exceptionnel. C'est pas un peu bizarre, du coup, de mettre autant d'argent sur des canons à neige ?
Bizarre. Pourquoi bizarre ?
Bizarre à contre-courant, on va dire.
À contre-courant. Alors, effectivement, on nie pas qu'il y a un réchauffement global qui peut entraîner effectivement des difficultés d'enneigement, ou pas, d'ailleurs, sur notre secteur des Bauges. On a une activité économique qui dépend, on le voit étroitement, de la saison d'hiver. Actuellement, on souffre moins que d'autres, et je pense que les socioprofessionnels, si vous les interrogez, pourront peut-être répondre par l'affirmative, c'est qu'on a du monde parce qu'on propose cette activité de ski. Alors, elle est nordique, elle n'est pas alpine.
Et pour autant, il y a plein de monde cette année.
Voilà, elle est nordique et les gens découvrent cette activité. On a un chiffre d'affaires qui est en augmentation. Non pas qu'on soit meilleur que les autres, c'est sur tous les sites nordiques, parce que les gens aiment cette ambiance hivernale. Alors, quand il y a de la neige comme cette année, effectivement, on a une affluence record. On peut imaginer que si on a un peu moins de neige et qu'on ait des difficultés à faire partir les gens ski au pied du centre de nos stations, eh bien, ces gens viendront peut-être moins. Alors après, est-ce que, bizarre, je pense pas, on est parti pour l'amortissement de notre équipement. Je parle là des enneigeurs, hein, parce qu'il faut dissocier la neige de culture de la retenue. La retenue restera, quoi qu'il arrive. Que la température de l'air augmente de 5 ou 10 degrés, la retenue sera toujours effective, elle sera en place et elle aura d'autres utilités dans le futur. Après, le réseau, on l'amortit sur 15 ans. On prépare la diversification pour nous permettre de maintenir à ce niveau-là notre fréquentation et surtout l'enjeu de garder le départ au centre de la station, parce que si on quitte le centre station, les gens ne s'arrêtent plus pour consommer localement et faire vivre nos socio-pros. Donc on a fait ce choix. On est capable, je pense, de pouvoir enneiger encore les départs, les retours et notre stade de biathlon dans les 10 à 15 prochaines années. Alors après, je ne suis pas non plus... je ne lis pas dans le marc de café ou les boules de cristal. Si le réchauffement est vraiment très brutal et qu'on imagine qu'on prenne 5 degrés dans les 10 prochaines années, c'est évident que ça va être très compliqué. On s'est aussi basé sur des études scientifiques qui espéraient qu'on maintenir le réchauffement global à l'issue de la fin de ce siècle à plus de degrés. On sera peut-être plus rapidement à ce réchauffement-là, mais on sera capable de produire de la neige. Il nous faut 100 heures pour enneiger la zone que nous souhaitons enneiger. 100 heures à moins 2 degrés.
Production de neige.
Oui, 100 heures de production de neige, 100 heures avec des températures négatives entre moins 2, moins 3 degrés. Il est évident que là, on a une période de 10 jours à moins 10 degrés. Le lac, on aurait vidé les 28 000, 30 000 mètres cubes dans ces 10 jours en production de neige. Et on aurait sécurisé pour la saison l'ensemble des départs, retours et stades de biathlon.
Du départ de la FECLA.
Oui.
Quand je dis le départ, c'est vraiment l'ensemble.
Oui.
Parce que
oui.
Le plateau Savoie-Grand-Revard est connu et a un petit surnom, c'est le Petit Canada. Ça veut dire qu'en forêt, il fait bien froid et vous ne fonctionnez qu'avec de la neige naturelle.
Oui, oui. Après,
vous avez des réserves de neige dans différents endroits pour pouvoir alimenter.
Oui, après, la neige, on compte. De toute façon, le travail, il ne s'est pas cantonné à la retenue collinaire et à sa production de neige qui vient avec. On a commencé par déjà travailler toutes nos pistes de surfaçage. Donc, on a enlevé la terre végétale, on a empierré, on a revégétalisé pour avoir des pistes prêtes à recevoir 20 cm de neige et à être ouvertes. Donc, ça, c'est le gros travail qu'on a fait sur le secteur de Les Déserts, la FECLA. On est en train de faire le même travail sur le secteur de Saint-François de Sales. Et on a des projets aussi sur Crolle, mais Crolle est la porte la mieux enneigée qui est située un petit peu au nord. Donc c'est pour ça que le choix s'est fait d'abord sur la FECLA très exposée au Redoux. Saint-François de Sales aussi, qui nous a posé problème puisqu'elle est dans le couloir du col de Plainpalais. Mais on travaille dessus, on travaille aussi sur on ramasse la neige des parkings, on fait du transport de neige. Et puis en même temps, on fait du reboisement parce qu'on a eu des gros problèmes liés à des coups de vent, des tempêtes hivernales qui ont cassé des bois en forêt. Et on a eu le développement du bostriche dans les années 2012, 13, 14, 15, de sorte que la forêt était fortement impactée par l'insecte, xylophage, fragilisée. Et du coup, il a fallu faire intervenir les forestiers pour exploiter ces chablis. On avait des ouvertures qui faisaient rentrer des courants d'air chaud et puis le soleil. Donc on a reboisé aussi. depuis 2 ans, on fait du reboisement. On a planté plus de 2000 épicéas en collaboration avec l'ONF, hein, qui a obtenu le marché. Donc, ça a été un marché public qui a été ouvert. C'est l'ONF qui a obtenu ce marché. On a planté plus de 2000 épicéas en bord de piste. Donc, en même temps, le reboisement. Et on vous l'avait dit, hein, le petit Canada, la forêt maintient de l'ombre portée et une ambiance un peu plus fraîche pour maintenir la neige en l'état. Donc, on mise sur cette situation géographique, ces conditions météorologiques particulières du plateau pour fonctionner... et que la neige de culture soit qu'un complément.
On va aborder le dernier point. On a parlé de tout, sauf de l'Office du tourisme. Parce que l'Office du tourisme étant un lieu qui accueille du monde, ça devient compliqué. Il a été fermé jusqu'au début de saison, l'Office du tourisme. Ça se passe comment aujourd'hui pour l'Office du tourisme ?
Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'Office du tourisme de Savoie-Grand-Revard était une association loi 1901. C'est maintenant, cette association est en passe d'être dissoute, c'est Grand Chambéry Alpes Tourisme qui a repris le fonctionnement de l'Office du tourisme de Savoie-Grand-Revard. Donc voilà, le personnel qui était en poste a été repris, a bénéficié de formation aussi, hein, puisque c'est vrai qu'on avait peu de moyens avec le seul office de Savoie-Grand-Revard. Donc au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire de Grand Chambéry, nos offices du tourisme ont fusionné, que ce soit le cœur des Bauges, Savoie-Grand-Revard, avec le Hayon Margeria, pour intégrer Grand Chambéry Alpes Tourisme avec effectivement beaucoup plus de moyens, notamment pour la communication. Donc bon, moi je ne travaille pas au sein de l'Office du tourisme, nous on collabore de manière très rapprochée.
Vous partagez les locaux
On partage les locaux, effectivement, on partage les locaux, l'information circule d'un bureau à l'autre, on envoie toutes nos informations, voilà, donc on travaille en bonne entente, bonne collaboration.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour cet hiver, à part l'ouverture des remontées mécaniques qui coulent de source ?
Oui, ça c'est sûr. Et puis moi je crois qu'on peut souhaiter à tous que cette épidémie soit maîtrisée, en tout cas au moins relativement maîtrisée, pour permettre à tout un chacun de reprendre des activités sociales, culturelles, sportives, normales.
Ah oui, dernière chose, la nocturne est totalement annulée, là, c'est fini.
Oui, avec le couvre-feu à 18h, on peut pas se permettre de maintenir ouverte notre nocturne, parce que ça permettrait pas aux gens d'être à 18h chez eux. Mmh. On ferme à 17h nos pistes, donc là, effectivement, les gens rentrent. Après, maintenir une nocturne pour une demi-heure, ça n'a aucun sens. Mmh. Donc voilà, elles sont annulées jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, là, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Et l'avenir nous dira si on peut maintenir après une ouverture au-delà pour les vacances, on verra.
Bon, eh bien, si vous voulez faire du ski cette année, c'est du nordique, c'est du ski de fond, classique, skating. Et puis pour l'alpin, on verra plus tard.
Tout à fait, voilà.
Merci Franck.
Merci à vous.
Les racines du futur, une émission pour écouter les Bauges.